Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains à l'Assemblée, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Christian Jacob,
bienvenue. Bonsoir.
Pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24, Christophe Forcari de Libération, bienvenue à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la page tournée de l'UMP, désormais officiellement rebaptisée Les Républicains, pour partir bien sûr à la reconquête pour 2017. Mais pour commencer, eh bien, l'actualité et cette polémique qui ne retombe pas, bien au contraire. On parle bien sûr de ce vol aller-retour du Premier ministre Valls à Berlin aux frais du contribuable pour voir le match du Barça, c'était samedi dernier, avec, eh bien, on l'a appris cet après-midi, il était accompagné de ses deux enfants. Est-ce que cette histoire vous choque, Christian Jacob ?
Elle a beaucoup choqué les Français, elle les a fait réagir. Moi, je crois que ce qui est le plus choquant, c'est d'avoir essayé d'inventer une pseudo-réunion avec.
Vous n'y croyez pas à la réunion.
Je suis un peu sceptique sur cet argument qui est venu à la fin. Je pense que si tout simplement le Premier ministre avait assumé qu'il est désiré aller à ce match, Ça peut susciter des réactions, mais je pense que les préoccupations premières des Français sont quand même sur la situation de notre économie, sur le taux de chômage, et il y a beaucoup d'autres sujets de préoccupation.
Vous pensez que c'est une maladresse de père de famille fan de foot, c'est pas une faute politique d'un Premier ministre qui utilise les moyens de l'État pour aller voir un match de foot ?
Ce qui est gênant, c'est de ne pas avoir assumé clairement et simplement les choses.
Vous pensez que ça va à terme ternir son image ? À l'Assemblée, on disait aujourd'hui, il ne pourra plus se moquer de Nicolas Sarkozy.
Parce qu'il passe son temps à donner des leçons de morale et la main sur le cœur, à sauter, à crier République, République, République. Oui, bon.
Il ne serait pas le seul dans ce cas-là.
Non, mais.
Par les temps qui courent.
Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres sujets de préoccupation. Mais en tout cas, ce qui est regrettable, c'est d'avoir, ne pas avoir assumé, essayer de masquer les choses en inventant une réunion, en demandant au président de la République de le couvrir. Tout ça fait un imbroglio qui est pas glorieux, quoi. Le moins qu'on puisse dire.
Quand on demande des efforts aux Français à tous les niveaux, est-ce que c'est pas un peu indécent de voir un Premier ministre d'une présidence normale user de moyens anormaux pour satisfaire un petit plaisir?
C'est facile pour moi de vous répondre oui. Après ça, je vous dis encore une fois, il y a d'autres sujets de préoccupation. Et ce qui me choque, c'est d'avoir essayé de masquer les choses. Et c'est cela qui est choquant. Si le Premier ministre avait assumé clairement, je pense que les choses seraient passées, que les Français auraient pu le comprendre. Mais là, effectivement, et puis chercher la couverture, la protection du président de la République, qui du coup rentre aussi dans cette petite opération de camouflage. Tout ça n'est pas glorieux, voilà, c'est pas glorieux.
Roselyne Fèvre.
Mais est-ce que dans le fond, il n'y a pas une sorte d'ivresse du pouvoir où, à partir d'un certain moment, on a l'habitude, on travaille beaucoup. Comme vous disiez, Manuel Valls parle beaucoup de république, de rigueur. Et à un moment, on échappe un peu à la réalité parce que il y a une sorte d'ivresse. Est-ce que ça touche, on a l'impression que ça touche quand même pas mal le personnel politique, que ce soit de droite, de gauche. Est-ce que vous le sentez, ça ?
Ça peut tout à fait exister. C'est vrai, il faut y être attentif. À partir du moment où on exerce des responsabilités publiques, il faut être attentif à ce genre de choses parce que ça suscite les réactions que ça suscite aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a un tel émoi dans l'opinion publique, c'est jamais le fait du hasard.
Mais le pouvoir génère ça.
Peut générer.
Et ce qui fait à nouveau les choux gras du Front National, que l'on sait toujours prompt à entonner l'air du tous pourri, in fine.
Bon, c'est-à-dire que plus on veut être dans ce niveau de polémique, plus on en parle, plus on veut effectivement. Après, toutes les démagogies sont possibles. Bon, moi, je pense que il faut pas tomber dans les excès, mais en même temps, ça nécessite les responsabilités publiques que l'on occupe les uns et les autres obligent à une certaine rigueur et le Premier ministre doit pas y faire exception. Voilà. Mais bon, écoutez, je pense que il y a encore une fois, il y a d'autres sujets de préoccupation. Des Français.
On y vient. Manuel Valls qui a lancé ce matin son Small Business Act à la française. Le patronat en avait rêvé. Le gouvernement socialiste l'a fait. Toute une série de mesures ont été annoncées ce matin pour doper l'emploi dans les PME, parmi lesquelles le plafonnement des indemnités de licenciement ou bien encore l'officialisation du renouvellement du CDD. Les syndicats, la gauche de la gauche, crient ce soir au scandale. Le Premier ministre a quant à lui défendu à l'Assemblée des mesures, a-t-il dit, nécessaires pour gagner la grande bataille de l'emploi. On écoute.
La priorité du président de la République, qui présidait la réunion du Conseil restreint ce matin, c'est l'emploi et c'est l'embauche. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre de temps et agir sur tous les leviers, et notamment en nous appuyant sur les petites et moyennes entreprises et les TPE, là où travaillent 50% des salariés français, ces entreprises qui représentent plus de 99% des entreprises françaises, et vous les connaissez bien puisqu'elles font vivre vos territoires.
Voilà pour le Premier ministre Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée. Christian Jacob, est-ce que ces mesures vont dans le bon sens? Est-ce que la droite, votre famille, aurait pu les prendre, aurait dû les prendre quand elle était au pouvoir?
Mais c'est surtout ce gouvernement. Mais quelle mascarade! C'est vraiment se fiche du monde, mais à un niveau comme on l'a rarement vu. On nous a expliqué il y a un an que la loi Macron allait relancer l'économie, que ça allait être le grand texte qui allait mobiliser toute l'économie française. Ce texte qui est arrivé avec une centaine d'articles au départ, qui ressort aujourd'hui...
10 000.
Qui
est sur,
non, on en est à 416 articles dedans. Et finalement, ce que dit le Premier ministre, c'est que ce texte, c'est à rien, sonne le creux. C'est-à-dire qu'il est nul et non avenu, puisque le texte n'est pas encore voté, qu'on nous a annoncé la loi Rebsamen, qui alors, elle, ça allait être autre chose. Là, c'était la loi sur le dialogue social, on allait simplifier la vie des entreprises. Donc, relancer l'économie, simplifier la vie de l'entreprise, et le Premier ministre vient de dire que tout ça était nul et non avenu, avant même que ce soit voté, puisqu'il relance une opération de com', parce que c'est ça la réalité, et puis vous verrez que dans 15 jours, il relancera encore autre chose, parce que Valls, tant qu'on est dans les postures et dans les effets d'annonce, il est toujours au rendez-vous. Quand il s'agit d'agir, c'est autre chose. Un texte, la loi Macron, souvenez-vous ce qui a été dit sur la loi Macron, comment l'économie allait passer de l'ombre à la lumière.
Le président avait prévenu que c'était quand même pas la réforme du siècle.
Ah oui, mais enfin, c'est pas ce que disait Valls ni Macron, puisque Macron a même, cinglé sa majorité en lui imposant un 49-3, tellement ce texte était essentiel. Et puis là, il dit, finalement, tout ça sert à rien. Je vais vous refaire une petite annonce à la sortie d'un Conseil des ministres, et puis on est reparti sur autre chose.
Oui, mais enfin, on peut toujours critiquer. En tout cas, des choses sont faites.
Rien n'est fait là-dessus.
Alors, attendez. Rien. Attendez, on va prendre les choses peut-être une par une. Par exemple, sur l'embauche et la prime de 4000 euros pour un premier employé. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour faciliter l'embauche, cette prime qui va d'ailleurs coûter à l'État 200 millions d'euros. Est-ce que ça, vous contestez pas cette mesure-là?
Si, moi je la conteste.
Pourquoi?
C'est une mauvaise chose. Parce que c'est de l'impôt en plus. C'est de l'impôt supplémentaire. C'est-à-dire, et à chaque fois que c'est de l'impôt, on augmente le coût du travail, on baisse la compétitivité des entreprises, et parallèlement à cela, en même temps qu'on crée cette prime et que, on a relancé 100 000 emplois aidés, eh bien, on massacre l'apprentissage. Parce que le taux de chômage, on est aujourd'hui un taux de chômage sur les moins de 26 ans qui est à peu près à 25%, alors qu'il est chez nos voisins allemands à 6, enfin moins de 6% d'ailleurs maintenant. Pourquoi on en est à cette différence? Parce que les Allemands très tôt se sont engagés sur des formations par alternance et sur l'apprentissage. Là, on a massacré l'apprentissage pour faire des emplois aidés, tout cela parce que...
Ils sont sortis du chiffre du chômage.
Oui, parce qu'il faut absolument arriver en 2016 avec une courbe du chômage qui s'inverse pour que le président de la République soit en situation de se présenter.
Ces mesures ne serviront pas cet objectif.
Ne servent fichtrement à rien et n'ont qu'un objectif qui est purement politicien. Si ça n'était pas le cas, cet argent serait mis sur la formation des jeunes, sur des formations en alternance, en apprentissage, qui permettent de déboucher sur un travail concret. Là, on les borne dans le temps. Ce sont des mesures qui ont une seule vocation, qui est purement politicienne.
Christophe Orcari.
Monsieur Jacob, vous connaissez comme moi des entreprises qui emploient des jeunes gens en CDD, qui ne respectent pas les délais de latence, qui les renouvellent 3, voire 4, voire 5 fois, et j'en connais certainement beaucoup autant que vous, est-ce que là on n'entérine pas simplement un état de fait déjà existant? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous êtes contre la prime de 4000 euros, est-ce qu'il ne fallait pas procéder, comme l'a dit en son temps un autre candidat à la présidence, à une exonération de charges sur le premier ou le deuxième emploi, en l'occurrence c'était François Bayrou en 2012. Est-ce que cette solution n'était pas meilleure que cette prime de 4000 euros?
Moi je suis contre la prime de 4000 euros, je vous l'ai dit clairement.
Et l'exonération de charges.
Je pense que il faut aujourd'hui que l'on abaisse le coût du travail. Abaisser le coût du travail, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser les prélèvements et les cotisations sociales qui pèsent sur le travail. Pour cela, il faut changer d'assiette sur le financement de la protection sociale et surtout accompagner les jeunes par la formation. Tous ces emplois aider ces primes, jamais. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai été pendant des années, je ne le suis plus, agriculteur. Vous n'embauchez pas parce que vous avez une prime. Vous pouvez le faire par opportunité, ça dure très peu de temps, parce qu'après, tout dépend de la capacité que vous avez à générer un résultat. Or là, nous avons des entreprises qui sont complètement asphyxiées par l'impôt. On le voit d'ailleurs sur les résultats de la Cour des comptes sur les chiffres 2014, où l'impôt sur les sociétés a été pratiquement divisé par deux en recettes. C'est bien le signe que l'entreprise est asphyxiée. Et pour relancer l'emploi, il faut redonner de l'oxygène.
Pourquoi la droite n'a pas fait cette réforme de la formation, que c'est quand même un fromage de 35 milliards d'euros, que se partagent les syndicats et les patrons à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas eu de réforme
sur l'apprentissage? On l'a pas fait suffisamment. Il suffit. Regardez pourquoi depuis 3 ans l'apprentissage s'effondre. C'est que depuis que la gauche est arrivée, l'apprentissage s'effondre. Ensuite, moi, je défends une idée qui, je pense, est en train de devenir majoritaire dans ma famille politique. Elle n'était pas jusque-là. Moi, je suis attaché à l'apprentissage à 14 ans. Je pense qu'il faut sortir du collège unique. Il faut casser le collège unique et pouvoir démarrer l'apprentissage dès 14 ans, comme le font entre autres nos voisins allemands. Et ça, sur l'apprentissage, nous l'avions fait avec le pré-apprentissage, mais qui n'allait pas suffisamment loin. Mais ceci étant, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Ça figurera dans le projet des Républicains?
Je milite pour que ça y figure.
On en parlait, cette loi Macron qui revient à l'Assemblée nationale 4 mois après son adoption à marche forcée en première lecture. Alors le Sénat l'a prise en main, l'a modifiée. On dit que le Sénat l'a rendu plus libéral. On croit comprendre que ça vous plaît toujours pas.
De toute façon, le gouvernement a décidé de revenir au système hanté, c'est-à-dire tout ce qui était modifié par le Sénat va être supprimé, sauf les articles qu'on avait votés conformes. D'ailleurs, un certain nombre d'articles, c'est une loi. Quand on en est à 400 articles sur une loi, cette loi ne veut plus rien dire. Ça veut dire qu'elle n'a plus aucun sens. Une loi doit être simple, claire, lisible. 400 articles, c'est n'importe quoi.
Le chef du gouvernement Manuel Valls se donne jusqu'à la fin de la semaine pour savoir s'il passera à nouveau par la force avec le 49-3. Est-ce que vous craignez à nouveau un psychodrame comme il y a 4 mois avec des députés frondeurs, ou est-ce que tout ça finalement fait bien vos affaires?
Tout ça, c'est de la tambouille interne du PS. C'est le problème de Valls et de ce groupe PS. Il a réussi, il détient ce record d'avoir réussi à faire éclater sa propre majorité, son propre groupe parlementaire. C'est quand même assez exceptionnel. Un Premier ministre, on voit parfois des alliés qui le quittent, c'était le cas des communistes et des Verts, mais arriver à faire exploser son propre groupe parlementaire, chapeau l'artiste. Je veux dire, tout le monde n'y arrive pas.
Vous pensez qu'il prendrait des risques à réutiliser le 49-3? Vous pensez qu'il va le faire? Prenons les paris ce soir.
Honnêtement, c'est son problème, et c'est le problème du groupe PS, c'est pas le nôtre.
On va parler justement de votre problème. Nicolas Sarkozy vous a demandé au lendemain du congrès, à vous, député républicain, nouvellement républicain, de travailler à une proposition de loi pour revenir sur plusieurs mesures socialistes qui nuisent à l'économie. Est-ce que vous avez commencé ce travail? Sur quoi vous planchez?
On s'appuie sur le travail que nous avons fait au groupe. C'est d'ailleurs ce que dit Nicolas Sarkozy. Nous avons au groupe parlementaire de UMP Républicain aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, travaillé sur une série de mesures, parce qu'on ne perd pas les élections par hasard. Et donc, on a fait cette analyse et on a fait un certain nombre de propositions sur le temps de travail, sur le coût du travail, sur le financement, sur les grandes réformes de structure, un financement de la protection logement social, financement des retraites. Donc on va reprendre ces mesures et toutes les décisions prises par le gouvernement actuel qui ont supprimé les mesures qui étaient favorables à l'économie. Donc on a commencé à ce travail, mais en s'appuyant sur les travaux de nos groupes parlementaires, Assemblée et Sénat.
Est-ce qu'il s'agirait notamment de revenir sur des réformes que la gauche a passé à la trappe dès son arrivée, notamment les heures sup défiscalisées? C'est ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui?
On va dénoncer cela, mais moi je pense qu'il faut aller bien au-delà sur le temps de travail. Il faut se mettre sur le cadre européen et ensuite travailler sur des accords de branche ou des accords d'entreprise, c'est-à-dire en offensif et en défensif. Concrètement, ça veut dire que on doit pouvoir déclencher les heures supplémentaires à partir de la 35e, la 36e, la 37e, la 39e ou la 40e heure, on déclenche les heures supplémentaires. Là, en offensif, c'est-à-dire que quand un chef d'entreprise a son carnet de commandes qui se remplit, eh bien qu'il puisse, en accord avec ses salariés, donc par accord d'entreprise, travailler davantage en heure normale et déclencher les heures supplémentaires plus tard. Et en défensif, pouvoir au contraire, lorsque le carnet de commandes se vide, et bien avoir une réduction du temps de travail sans passer par un plan social. Donc on a besoin de cette souplesse, et c'est comme ça, en rassurant les chefs d'entreprise, en donnant de l'oxygène et en donnant beaucoup plus de liberté, qu'on créera de l'activité et de l'emploi.
Est-ce que vous avez lu ce dimanche, dans le journal du dimanche, la tribune d'Arnaud Montebourg et du banquier de la banque Lazare, Mathieu Pigas?
Non, mais j'ai vu les dépêches qui s'y rapportaient, pour tout.
Bon, voilà, vous étiez hébété.
Est-ce que le
constat est bon?
Vous pourriez la signer, cette tribune?
Non, certainement pas. Non, on est dans les règlements de compte internes. Vous savez, Arnaud Montebourg assume, il aurait dû continuer à assumer ses responsabilités, ou à ce moment-là, jouer de cette manière en disant je sors de la politique, mais en même temps je continue à aller secouer mon parti politique, pourquoi pas? Pour nous, j'ai envie de dire, ça peut nous amuser, mais je crois que tout ça est ni très constructif ni très sérieux.
Vous partagez pas le constat, là?
Sur l'austérité,
j'ai du mal avec Montebourg.
Est-ce que vous considérez que le gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande fait une politique d'austérité, par exemple?
Non, je pense qu'ils ne font plus de politique. La catastrophe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de majorité. On l'a vu, d'où le recours au 49-3. Et leur difficulté aujourd'hui est de tracer un cap, c'est-à-dire aucune réforme de structure. Quand on regarde pourquoi l'économie allemande est dans la situation où elle est aujourd'hui. Pourquoi d'autres économies se sont redressées? Parce qu'à chaque fois, il y a eu des réformes de structure. Et là, aucune n'a été engagée pendant ces trois années. Celle que nous avions, après la crise de 2008, commencé à engager sur la fin du quinquennat précédent, ont été supprimés dès que la gauche est arrivée. Et le reproche qu'on a à faire à François Hollande et à ses deux gouvernements successifs, c'est le fait de n'avoir fait aucune réforme de structure et d'avoir matraqué les classes moyennes par l'impôt, donc effondré le pouvoir d'achat, effondré le pouvoir d'achat et en même temps asphyxier l'économie en augmentant les impôts et les charges pour les entreprises.
Voilà. Une dernière question sur les affaires de l'Assemblée. Le patron de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui annule donc cette visite parlementaire en Russie en raison du refus de Moscou de retirer Bruno Le Roux, votre alter ego auprès des députés PS, de sa liste noire des personnalités européennes interdites de séjour sur le sol russe. Ça vous inspire quoi? Il fallait?
Il y a deux choses. Je pense que Claude Barthelone et Bruno Le Roux ont voulu faire leur petite opération de communication devant les caméras en disant voilà, on va y aller et puis on se fera refouler, etc.
Moi je
leur avais rappelé que je ne m'associerais pas à cela, et donc c'est pour ça que j'avais refusé d'être dans la délégation de Claude Barthelone pour me prêter à cette il était hors de question de me prêter à cette mascarade. En revanche, il est clair que ça n'est pas au gouvernement russe de composer une délégation de parlementaires français.
Vous condamnez sans restriction l'attitude russe?
Non, pas du tout. Je pense que on pouvait se sortir de ça de manière beaucoup plus intelligente. Il suffisait que Claude Barthelone prenne attache auprès du président de la Douma et de voir en termes diplomatiques en disant qu'il n'était pas question que ce soit la Douma qui compose la délégation française. Mais chercher à faire une opération de com' là-dessus, c'est un peu facile et ça n'apporte rien.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler, bien sûr, de l'avenir des Républicains.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi Politique, deuxième partie, toujours en compagnie de Christian Jacob, patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, pour vous interroger, Christophe Forcari de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors on le disait en début d'émission, l'UMP a donc vécu et laissé sa place aux Républicains. Ça s'est passé lors d'un congrès fondateur il y a une quinzaine de jours maintenant à la Villette. Objectif, le rassemblement, l'unité pour partir en reconquête pour 2017. Voilà en tout cas pour l'affichage. Mais dans la réalité, nous, ce qu'on a surtout entendu, eh bien, c'est que deux anciens premiers ministres, c'est assez rare dans des congrès, Juppé et Fillon, se sont fait copieusement siffler. Est-ce que ça, Christian Jacob, pour un baptême, c'était pas un peu rude quand même?
Écoutez, c'est toujours regrettable, mais en même temps, ça fait partie de la vie politique. Et il y a eu objectivement très peu de sifflets. Il n'y en aurait pas eu, ça aurait été mieux. Mais vous savez, c'est arrivé pour moi qui vient du syndicalisme, le nombre de fois où on se fait secouer dans des salles, ça nous arrive à tous. C'est d'ailleurs arrivé à Nicolas Sarkozy dans les congrès du RPR.
Mais là, c'était le congrès quand même un peu du rassemblement. On s'aime tous, c'était la famille.
Ils ont été tout d'abord très applaudis l'un et l'autre. Il y a eu effectivement, au moment où ils sont montés sur scène, voilà, quelques sifflets de trop qui n'avaient pas lieu d'être, mais en même temps,
c'était anecdotique. C'était spontané ou ça a été organisé à votre
Non, personne n'a organisé ça, c'était totalement anecdotique. Et sur 10 000 personnes, si vous en avez 50 qui sont là et qui ont envie de siffler, bon, voilà.
Mais tout de même, pour un chef de parti qui est Nicolas Sarkozy,
tout va bien.
Oui. Est-ce que franchement, comme vous le dites, hein, quand on est dans un meeting, chacun fait ce qu'il veut, mais est-ce que c'était pas quand même à Nicolas Sarkozy de faire un geste, de siffler un peu la fin de la récré, dire bah, écoutez, maintenant, c'est le baptême de notre parti, on le baptise d'un nouveau nom, enfin je sais pas, ça aurait été de son rôle de faire taire ses sifflets.
Non, mais attendez, tout ça dure 3 secondes, 4 secondes au moment. Et dès qu'Alain Juppé commence à parler, mais oui, mais
ça dure 4 secondes. Ouais, c'est un symbole. Enfin, c'est
donc et Nicolas Sarkozy doit se lever de la salle du premier rang, courir à la tribune, prendre un micro. Enfin, tout ça semble à rien. Écoutez, il y a 4-5-6 coups de sifflet. Voilà. Bon. Alors, ils sont regrettables. Ils n'auraient pas été là. Christophe. Ça aurait été mieux, mais c'est totalement anecdotique.
Christophe, alors, est-ce que ça augure bien? Malgré tout, on reste dans le symbole. Est-ce que ça augure bien des prochaines primaires? Vous aviez un bureau politique cet après-midi qui a été chargé d'en discuter à peu près les contours. Est-ce que ça augure bien des prochaines primaires de l'UMP? Seront-elles ouvertes, fermées? Enfin, a priori ouvertes. Vu comment se sont passées les précédentes, on peut quand même se poser quelques questions.
Ça se passera très bien parce que tout d'abord la mise en place de ces primaires c'est
parole d'ancien syndicaliste.
Oui, et ça s'est fait avec une équipe autour de Thierry Solaire, avec des représentants des différents candidats qui envisagent de postuler à la primaire. Décision qui a été prise à l'unanimité. Je vous rappelle quand même que sur les statuts, on avait dit ça y est, ils créent le statut du nouveau parti, ils vont s'exploser sur les statuts. Voté à l'unanimité, le règlement des primaires voté à l'unanimité, le changement de nom voté à l'unanimité, moins une voix en bureau politique, et ensuite à plus de 80% par les militants. Donc tout ça augure plutôt bien des prochaines échéances politiques.
Il se trouve que dès le lendemain du congrès, il y avait quand même quatre candidats à la candidature qui réclamaient ce comité d'organisation pour la primaire. Et qui disait un peu s'inquiéter de ces velléités prêtées à Nicolas Sarkozy de torpiller ce processus. Est-ce que vous pensez que vous allez faire partie de ce comité d'organisation, que ces craintes soient fondées?
Mais tout ça, ce comité d'organisation, il a été prévu à l'unanimité, donc tout le monde a été d'accord.
Ah, mais quand on vous entend, c'est la famille de l'amour.
Mais oui, mais ça fait l'objet.
Non,
mais
je
sais que ça peut vous faire de la peine, ça peut faire. Mais écoutez, nous, ça nous réjouit et ça se passe bien.
Non, mais c'est bien nous
en même temps, il y a une compétition.
Bonne, mais
les règles de la compétition, c'est normal qu'elles soient discutées. Et encore une fois, ce sont des débats qui se tiennent de manière tout à fait sereine, qui sont sanctionnés par des votes ensuite, et à chaque fois, c'est terminé par des votes à l'unanimité, au moins une ou deux abstentions. Donc, tout ça augure plutôt bien des échéances à venir. Mais en même temps, la compétition, il faut l'assumer.
Il n'y a pas de doute que ces primaires auront lieu, bel et bien.
Écoutez, moi, je n'ai jamais été un partisan des primaires, mais elles ont été décidées. Donc, à partir de là, je m'y range. Je trouve qu'effectivement, si on avait pu s'en passer, ça aurait été mieux. Ça n'est pas le cas, donc... Soit, allons-y.
Quand vous voyez un récent sondage publié dans Le Parisien, réalisé par Odoxa, disant que finalement les Français ne veulent plus de Sarkozy ni de Hollande et que Bayrou trouve grâce à leurs yeux, vous vous dites finalement les primaires. Vaudrait peut-être mieux finalement voter Juppé, copain avec Bayrou.
Je me dis qu'il y a la réalité et la fiction, et la réalité, c'est les élections. Vous savez, les gens qui sont au firmament des sondages 2 ans avant les élections, c'est un rendez-vous à un moment donné. Donc aujourd'hui, ça n'est pas ça la préoccupation. Notre préoccupation, c'est la reconquête des territoires. On vient de remporter une victoire sans précédent au municipal. Il faut remonter plus de 50 ans en arrière pour trouver une telle victoire de la droite et du centre au municipal. On vient de remporter là aussi une victoire sans précédent au départemental, presque de 30 départements qui basculent de gauche à droite. Maintenant, cap sur les régionales, nous sommes en train de préparer les élections régionales, et puis ensuite...
Ça c'est le discours officiel de la famille Rassemblée mais non, mais c'est et la réalité. Qui se bat pour les régionales en oubliant totalement les primaires.
C'est pas la réalité.
Quand Juppé fait des déclarations je vais bien sûr gagner cette primaire, moi j'ai l'opinion, Sarkozy le parti, parle de quoi d'autre si ce n'est de la future bataille à venir.
Moi, ce qui
c'est bien de dire non, on ne pense qu'au régional, toutes les déclarations des républicains sont sur ces primaires.
Tous les deux mois, on nous annonce qu'on va exploser sur tel ou tel sujet. La réalité, c'est que les élections, on les gagne les unes après les autres.
Je dis pas que vous avez gagné, je dis que ce qu'il y a dans la tête de voter non en ce moment, c'est plus les primaires que les régionales.
C'était le cas pour les municipales, c'était le cas pour les départementales. Nous sommes en train de préparer les régionales et c'est ça le rendez-vous qui compte. Le reste n'est pas d'actualité aujourd'hui. C'est tout. Alors, mais ça le sera.
Roselyne Fèvre.
Le sera après les régionales.
Vous avez dit tout à l'heure, on ne perd pas les élections par hasard. Alors j'aimerais que vous me répondiez à 2 questions, s'il vous plaît.
J'attends les questions.
Primo, pourquoi Nicolas Sarkozy, selon vous, a perdu ? Et secondo, pourquoi il gagnerait 5 ans après, alors que c'est le même ?
Alors, sur la première question, ça n'est pas tant Nicolas Sarkozy qui perd, c'est notre majorité de l'époque qui perd. Parce que je vous rappelle que le président de la République peut décider un certain nombre de choses, ensuite c'est l'Assemblée qui vote. Et je pense que dans la situation de crise de 2008, nous avons reconnu aujourd'hui comme une crise sans précédent, Nicolas Sarkozy a fait la part de travail qu'il fallait, notamment sur la scène internationale et notamment européenne. Ensuite, sur les réformes, je pense que nous ne sommes pas allés suffisamment loin à ce moment-là, et là, c'est notre majorité. Moi, j'étais président du groupe parlementaire à l'époque, donc j'assume toute ma part de responsabilité sur le fait que nous ne sommes pas allés suffisamment loin. Pourquoi on gagnerait maintenant ? Ben parce qu'on a tiré les enseignements. Et c'est la vie politique, c'est ça. Vous savez, ce serait trop facile si on gagnait tout le temps. D'ailleurs, ce serait plus une démocratie. Il y a de temps en temps de l'alternance. Ça n'est pas le fait du hasard, comme je vous le disais. Il faut en tirer les enseignements. C'est ce que nous faisons au groupe les Républicains depuis 3 ans, en travaillant, et ce sera encore l'occasion avec nos prochaines journées parlementaires sur les sujets d'aménagement du territoire. Mais jusque-là, nous avons travaillé sur le coût du travail, le temps de travail, réforme des retraites, sur l'immigration, sur la sécurité. Et là, nous allons travailler sur l'aménagement du territoire.
Très court. Ça vous inspire quoi quand vous voyez qu'en Grande-Bretagne, tous les chefs de parti qui n'ont pas gagné les élections, enfin, il faut que ce soit pris une claque aux élections, une claque égale une démission. Est-ce qu'on devrait prendre de la graine en France ?
Chaque pays vit avec son histoire, et ensuite c'est une question de choix personnel. Vous savez, est-ce qu'on accepte ?
Pour rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, sur les Français n'ont plus envie de voir les mêmes têtes, quoi.
Est-ce qu'on accepte l'échec ou pas ? Je pense aussi que dans certaines circonstances, il y a besoin d'expérience. D'ailleurs, on le voit sur les différents candidats, que ce soit à la primaire chez nous, mais aussi, regardez, si vous voulez prendre l'exemple au Parti Socialiste, les candidats sont effectivement les mêmes. Mais au Front National, c'est encore pire. C'est la même famille depuis bientôt 40 ans. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes depuis 40 ans.
C'est une exception au Front National,
non ? Ça a changé de sexe.
Oui, enfin, c'est la même famille depuis 40 ans. C'est quand même jamais vu dans une démocratie. Alors, donc, on ne vienne pas nous donner des leçons sur le renouvellement dans ce cadre-là, parce que
vous parliez de préparer les échéances à venir. Les prochaines, ce sont les élections régionales. Mmh. Vous êtes en Seine-et-Marne. Quid de l'Île-de-France, où a priori aujourd'hui, il y aurait trois listes concurrentes à droite, le centre droit. Celle de menée par Valérie Pécresse, celle par Chantal Jouanneau,
UDI.
Et celle de l'UDI, et celle par Yann Verling, du Modem, etc. Voilà. Donc, est-ce que il y a des accords qui vont se dessiner? Les centristes réclament...
Jean-Christophe Lagarde s'impatiente.
Voilà, Jean-Christophe Lagarde, et réclame la tête de liste dans trois grandes régions sur les sept qui peuvent basculer à droite. Où en est-on de ces discussions sur l'Île-de-France et dans les grandes régions qui posent problème?
Elles n'ont pas encore abouti. Moi, je souhaite clairement qu'on soit sur des listes d'union. On a gagné les départementales parce que nous étions unis, et je pense qu'on a tout intérêt à aller sur des listes d'union avec l'UDI, parce que bon, l'UDI est clair sur ses choix politiques. C'est différent pour le Modem, parce que le Modem, en fonction que ce soit des municipales, d'un département à l'autre, on a des candidats qui sont à droite, après ça, qui vont soutenir la gauche. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je m'avance pas sur le Modem, mais sur l'UDI, moi je souhaite qu'on arrive à un accord, mais qu'il soit bien entendu un accord équilibré. Donc c'est normal qu'il y ait discussion, on se met pas d'accord spontanément. Donc laissons ces discussions avancer, et encore une fois, je pense qu'il y a un intérêt général qui veut qu'on aille vers l'union.
Vous êtes optimiste, le bon
sens
va prévaloir.
Oui, moi je suis plutôt optimiste. Ce sera difficile d'expliquer à nos électeurs que l'union marche pour les départementales et qu'elle marcherait pas pour les régionales. Mais il faut que ce soit équilibré, que représentatif des forces. Moi, si je prends l'exemple d'un département comme le mien en Seine-et-Marne, la majorité départementale est de 30, on a 38 sièges, il y en a 35 aux Républicains, il y en a 33 aux Républicains et 5 à l'UDI. Voilà, il y a des bases de discussion. Alors après, on passe un accord et puis on revient.
Alors, je voudrais revenir sur le projet un instant. On l'évoquait un peu plus tôt. Après les régionales, c'est bien sûr la construction du projet collectif, celui de la gagne. Hein. Là encore, on mesure la difficulté. Il y a eu notamment cette réunion de réflexion sur l'islam et la laïcité, dont finalement ça devait être une grosse convention, ça s'est terminé à huis clos. Et de fait, personne n'est d'accord sur un sujet. Bon, certes, important comme celui-là. Est-ce que tout le projet politique, ça va se passer comme ça dans des réunions à huis clos sur des sujets où les avis ne concordent pas? Ou est-ce qu'il y a déjà un socle commun pour vos ambitions en vue de 2017?
Il y a des sujets où aujourd'hui le socle commun est à peu près clairement établi. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les sujets économiques, sur la plupart des sujets sociaux également. Il y a d'autres sujets qui restent à trancher, et je pense qu'il ne faut pas de temps en temps se priver dans une formation politique d'avoir des réunions à huis clos. Il y a besoin de temps en temps d'avoir des débats publics, parce que ça nourrit la réflexion et la réaction. On mesure aussi la réaction de l'opinion publique lorsque vous relayez en tant que journaliste les débats que nous avons en interne. Mais de temps en temps, avoir des réunions à huis clos, pourquoi pas?
Mais qu'est-ce qu'il en est sorti justement de cette réunion sur l'islam?
Le sujet n'était pas abouti, pour tout vous
dire.
Que vous
n'étiez pas d'accord?
Non, c'est pas qu'on n'était pas d'accord, parce que je pense que le socle est assez clair, c'est-à-dire le principe de la laïcité, ça n'est pas de ne pas c'est de faire en sorte que chaque religion puisse s'exprimer librement, mais en revanche, qu'elle reste dans un cadre qui préserve la liberté des uns et des autres. Donc c'est un équilibre qui est toujours savant, la ligne de crête est étroite, c'est un sujet qui est compliqué en ce moment, donc aujourd'hui il est en train d'avancer, mais sur le socle de la laïcité, je pense que globalement on est tous à peu près sur la...
Pourtant Nicolas Sarkozy avait mis le curé avant le professeur, si vous vous souvenez.
Bon, oui,
à une époque,
ouais, quinquennat.
Peut-être, bon.
Voilà. Donc, faudra réviser la
piste de réflexion.
Je vous fais confiance.
Je me demandais simplement si vous n'étiez pas en train de reprendre les mauvaises recettes de la pré-campagne de 2012, avec une droitisation un peu extrême, parce que vous sentez derrière vous l'ombre portée de Marine Le Pen, et qui finalement vous ont pas tellement réussi en 2012 avec un discours très fort, avec auparavant un débat sur l'identité nationale. Enfin, on a l'impression que vous raidissez aujourd'hui, que vous essayez de refaire l'opération siphonnage FN en affichant un discours très à droite.
Non, c'est pas en affichant un discours très à droite, c'est en revanche en considérant qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et à partir du moment où il y a une réaction de l'opinion, vous voyez, sur un autre sujet, mais qui peut être lié, regardez la carte du vote Front National, la carte de France. On s'aperçoit que on a des zones rurales ou périurbaines, c'est-à-dire à proximité des grands pôles urbains, vous avez des zones rurales où là, il y a eu une explosion du vote Front National. Et bien ça, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, ça veut dire qu'il y a un problème en matière d'accès aux services, en matière de représentativité de ces populations, d'un sentiment d'oubli et qui génère chez eux un rejet des politiques en place et donc ils se tournent vers le Front National. Et donc ça, notre responsabilité d'élus, c'est d'y apporter des réponses. Et donc nos journées parlementaires cette année au mois de septembre prochain, eh bien nous allons travailler sur ces sujets parce que ce sujet ne doit pas être tabou, on ne doit pas considérer que...
Vous n'avez pas toujours la même position sur que faire face au Front National. Le Nini, il est...
Le Nini, c'est une position qui est ultra majoritaire.
Il est pratiqué différemment selon le Républicain qui...
Non. D'ailleurs, il n'y a eu aucune ambiguïté aux dernières départementales. Hein. Il n'y a pas eu de désaccord sur quoi que ce soit, sur l'attitude à avoir aux dernières élections départementales, par aucun des responsables des Républicains.
Alors on évoquait il y a un instant la compétition interne avec ces primaires qui se dessinent, après les régionales bien entendu. On sent également monter l'affrontement avec la majorité, avec le PS, hein, qui lui aussi a mis ses troupes en ordre de bataille derrière François Hollande pour 2017. Est-ce que ça vous inquiète pas, cette violence de pré-campagne? Là où on voit Nicolas Sarkozy traiter le président de médiocre, réponse de Valls, Nicolas Sarkozy est un problème pour la France, insulte contre insulte. Est-ce qu'on peut tenir 2 ans, c'est une vraie question, avec un tel abaissement du niveau du débat, à votre sens? On est à 2 ans de la présidentielle.
Oui,
on se jette déjà des noms d'oiseaux, maintenant la nouvelle porte-parole des Républicains qui traite Valls de petit chat apeuré et haineux.
C'est-à-dire que bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de provocation, le Premier ministre est champion du monde.
Quoi.
C'est
quand même...
Non, mais attendez, on a eu droit à tout quand il se tourne.
Position structurante.
Oui, enfin, quand il se tourne vers l'opposition en disant le terrorisme, c'est vous.
Mais c'est ça le bon niveau de débat.
C'est totalement irresponsable. Bon, après, je pense que le débat d'abord, ce n'est pas celui-là. Il suffit, reprenez les interventions des principaux leaders des Républicains dans les différents meetings. Il y a de temps en temps la réponse à une attaque, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres propositions qui sont sur la table, celles que j'évoquais tout à l'heure.
Vous attaquez, vous, Manuel Valls, à la tribune de l'Assemblée.
Oui, bien sûr.
Qu'il éructait, qu'il était tout rouge.
Oui, mais c'est souvent le cas. Mmh. Regardez, moi, je fais un constat.
Mais il ne vous fait pas penser à quelqu'un?
Je ne sais pas à qui il vous fait penser.
Je ne sais pas.
Ben, je sais pas.
Ce côté un peu nerveux.
Peut-être un des 3 candidats à la primaire des Républicains, non?
Amstram-Rem, Piqué-Piqué et Collégram.
Oui, ben écoutez, moi je vous laisse vous devinette entre vous.
Il n'y a pas d'abaissement du niveau du débat. Les noms d'oiseaux peuvent voler de petits chats.
Non, bien sûr que non, mais les pertes de sang-froid à répétition du Premier ministre posent un vrai problème. Et encore une fois, on ne peut pas comparer la réponse que fait un de nos porte-paroles à l'expression du Premier ministre qui est en fonction. Et quand le Premier ministre perd son sang-froid et accepter que c'est à répétition, quoi. C'est très régulièrement aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet pour le gouvernement de la France, effectivement.
Très vite, en 2 mots, est-ce que vous avez trouvé votre champion, vous, pour les futures primaires à droite?
Oui, les Républicains.
Mais parmi les Républicains, il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre. Qu'est-ce qui vous aidera à prendre votre décision?
Écoutez, on verra cela dans un peu plus d'un an, lorsque nous engagerons dans les primaires. Moi, je suis président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Et ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que notre famille politique reste unie. Elle l'est aujourd'hui et elle doit le rester pour préparer ses primaires sereinement.
Vous viendrez nous le dire. C'est la fin de Mardi Politique.
Et vous m'inviterez, j'en suis sûr.
Absolument. Réalisé par Mathias Golchani. Merci Christian Jacob d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires France 24 Libération. Roselyne Fèvre, Christophe Forcari, rendez-vous à tous la semaine prochaine.